Nous allons retrouver notre invité, un avocat international, Philippe Sand, qui publie Retour à Lemberg chez Albin Michel. Et justement, puisque vous avez évoqué le fait de risquer sa vie, Frédéric, en disant que cette époque était révolue pour les politiques, il y eut une époque pas si lointaine où les individus, hélas, non seulement risquaient leur vie, mais réfléchissaient également sur des concepts hérités de l'histoire tragique. Et c'est notamment de cela dont parle votre livre, Philippe Sand. C'est un ouvrage qui essaye de suivre plusieurs fils, le fait avec brio. Tout d'abord, un fil qui est hérité de votre métier d'universitaire, puisque vous êtes professeur de droit. Vous avez réfléchi sur des notions en droit international, des notions de génocide et de crimes contre l'humanité. Et puis, vous avez réfléchi également sur l'histoire de votre famille qui a été frappée par le génocide. Expliquez-nous comment ces différents fils se sont noués sous votre plume d'écrivain.
C'est un livre très personnel. Je voulais mieux connaître mon grand-père. Je connaissais pas son histoire. Il a vécu jusqu'à 1997, mais il a jamais parlé de ce qui s'est passé avant 45. Je reçois une invitation pour aller à cette ville de Lviv, Lemberg, pour découvrir la maison où il est né. Je voulais simplement trouver sa maison. Il est devenu parisien, moi quand je l'ai connu, il habitait à côté de la gare du Nord, rue de Maubeuge, mais je voulais savoir d'où il venait, je voulais savoir qui je suis moi, d'où je viens, vraiment. Et c'est une question de découverte.
Lviv, Lemberg, ce sont des villes qui aujourd'hui sont situées en Ukraine.
Mon grand-père est né là-bas, à Lemberg, en 1904. C'était en Autriche. Ça faisait partie de l'Empire autrichien, hongroise autrichienne. En 1919, ça devient polonais, Lvov. Et en 39, ça devient russe, et après allemand, en 41. Après, en 45, ukrainien. Et c'est une ville remarquable que j'ai découvert. J'étais invité à donner une conférence sur le travail que je fais, on en parlait avant, sur crimes contre l'humanité et génocide. Venez à Lviv, donnez une conférence. Je fais une petite recherche, été 2010, et je découvre par accident que l'homme qui invente le concept de génocide, Raphaël Lemkin, est étudiant à Lviv, et l'homme qui met le concept de crime contre l'humanité au droit international en 1945 avec le procès de Nuremberg, lui aussi était étudiant à Lviv. Alors je me pose la question, comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé à Lviv pour que toutes ces histoires commencent, débutent là-bas?
Réponse à cette question que vous vous êtes posée, Philippe Sands.
La réponse à la question, je pense que c'est compliqué, mais en simple, c'était une ville, c'était une région où il y avait 3 ou 4 communautés qui vivaient ensemble. Les Polonais, les Ukrainiens, les Juifs, et c'était pas toujours très simple. Et l'idée de l'Outer Pact et de Lemkin, les hommes qui ont inventé ces deux concepts, crime contre l'humanité, protection de l'individu, génocide, protection des groupes, c'était de trouver des moyens pour arriver que les hommes, les femmes, les enfants vivent mieux ensemble sous un parapluie du droit.
Nous avons retrouvé dans les archives la voix de Raphaël Lemkin, ce juriste juif polonais qui a forgé ce terme de génocide. Écoutez-le, Philippe Sand.
Le mot génocide signifie le crime de détruire des peuples, des races, des religions. Ce nouveau mot est composé du grec genos, race, nation, tribu, groupement humain, et du latin sidere, tuer. Cette combinaison d'un mot grec et d'un mot latin symbolise les deux anciennes civilisations, grecque et latine, qui sont à l'origine de notre civilisation moderne. Dans la formation de ce mot, je me suis inspiré par un discours radiophonique de M. Winston Churchill, d'août 1941, qui s'est référé à la boucherie dont se sont rendus coupables les nazis au cours de la guerre. Churchill disait « Nous nous trouvons en présence d'un crime sans nom ».
Votre réaction à cette voix de Raphaël Lemkin, ces deux personnages que vous avez suivis, des personnages réels, qui étaient juristes, qui ont forgé donc les notions de crime contre l'humanité et de génocide, Philippe Sand.
Il est vraiment adorable, ce monsieur. J'entends cette voix et je suis ému. Ça me fait penser au moment où j'ai rencontré la femme qui était en 1959 son assistant. Elle avait 19 ans, Nancy Stinson. Elle était étudiante à New York, à l'université de Columbia. Elle va faire un pique-nique avec un ami dans un petit parc à côté de l'université. Ils sont en train de manger leur sandwich quand il y a un vieux monsieur qui arrive envers eux. Il s'arrête devant eux. Il leur dit à Nancy Stinson et son ami, « Je sais comment dire « je t'aime » en 20 langues. » Et j'adore ça parce que ça cristallise ce monsieur un peu triste, un peu seul, tout à fait brillant et passionné par l'idée de protéger l'être humain. C'est lui qui a inventé, en 1944, le mot « génocide ». Il vient de le décrire là, dans un français assez parfait.
Quelles étaient les spécificités justement de ces deux notions qui aujourd'hui sont, hélas, courantes à nos oreilles, génocide et crime contre l'humanité? Philippe Sand, si vous deviez les définir respectivement.
Très simplement, crime contre l'humanité, ça fait partie des droits de l'homme, l'idée que tout être humain a des droits minimums et le droit d'être protégé. Crime contre l'humanité, ça symbolise la protection de l'individu. Le crime de génocide, par contre, c'est la protection des groupes. L'idée que les gens sont tués, les gens sont maltraités, pas parce qu'ils ont fait des choses au niveau individuel, mais parce qu'ils font membre d'une groupe, d'une race, d'une religion, d'une nation, nationalité ou je ne sais pas quoi. Et l'idée de Lemkin, c'est qu'il faut protéger les gens non seulement au niveau de leur qualité d'être humain, leur qualité d'individu, mais aussi parce qu'ils font membre d'une groupe qui a le droit d'être protégé. Vous savez, je travaille en ce moment sur un film sur deux jeunes filles que j'ai connues, que je connais, deux jeunes filles yazidis, qui vient d'une ville qui s'appelle Sinjar, en Irak du Nord, qui ont été attaquées en 2014 par Daesh, ISIS, qui ont été enlevées, et pendant un an, ils sont devenus esclaves, esclaves sexuels de Daesh. Ils m'ont raconté leur histoire. Je travaille avec mon ami David Evans, un cinéaste britannique, c'est le metteur en scène de Downton Abbey. On a fait déjà un film qui touche sur Retour à Lemberg. Et là, on a fait un film ensemble qui s'appelle Les esclaves de Daesh, les histoires de Dalal et de Louisa qui veulent la justice, qui veulent, comme Lemkin, comme l'Artopact, la justice pour ce qui s'est passé envers eux. Le film va passer à Arte le 22 juin.
Ce qui a été perpétré contre les yézidis, c'est un crime contre l'humanité, c'est un génocide.
C'est les deux. C'est crime contre l'humanité parce que ça touche toutes ces femmes, tous ces individus au niveau individuel. Mais c'est aussi pour moi crime de génocide. Pourquoi ? Parce que le viol, c'est un acte de génocide. Comment ça marche ? Et il y avait un grand plan là qui a été mis en place. Si on viole une jeune femme, on sait que cette femme ne peut pas retourner dans sa communauté et avoir des enfants parce qu'elle sera rejetée par sa propre communauté parce qu'elle a eu une vie sexuelle. Ce n'est pas acceptable dans cette communauté, alors elle est mise à part. Alors l'idée du viol comme acte de génocide date déjà de la période du Rwanda et de l'ex-Yougoslavie où ces techniques atroces ont été utilisées aussi. Alors, viol, tout à fait, c'est génocidaire.
On a parlé également dans les journaux de l'Arménie. Est-ce que l'on peut considérer, puisqu'il était question de l'Arménie, que le génocide arménien est le premier du genre, celui qui a donné naissance à la notion, Philippe Sand?
L'Arménie, ce qui s'est passé en 1915 a joué un rôle de grande importance pour Raphaël Lemkin. En 1921, il y a eu un grand procès à Berlin d'un jeune Arménien qui a assassiné un Turc qu'il trouvait responsable pour la mort de toute sa famille. Et cet assassinat et le procès a figuré largement dans les journaux en 1921 quand Lemkin était étudiant à l'université de Lviv. Et il y a eu, ça a sollicité plein de discussions à l'université au sujet de ce qui s'est passé aux Arméniens. pour Lemkin et pour moi aussi, c'est clair que 1 million de Arméniens tués par l'Empire ottoman en 1915, c'est un acte de génocide. Pour moi, il n'y a pas de débat là-dessus.
Pour moi aussi, ça ne fait pas débat. Et pourtant, je suis à chaque fois surpris de constater qu'il y a des gens pour qui cela fait débat, des gens de mauvaise foi. Évidemment, vous qui êtes intervenu justement à Istanbul auprès du romancier turc Ahmet Altan, qui est aujourd'hui condamné à perpétuité, vous savez bien que le pouvoir turc aujourd'hui cherche à nier ce génocide. Est-ce possible de créer une cour internationale qui consisterait justement à...
D'abord, il faut être très précis. Il nie pas les faits. Il nie pas ce qui s'est passé en 1900. Ce qu'ils veulent pas, c'est qu'on utilise ce mot. Et ils ont des arguments différents. D'abord, ils disent, ils ont raison, qu'en 1915, ce mot n'existait pas. Alors, le génocide pour eux, c'est seulement quelque chose qui peut avoir lieu après 1948, quand il y a eu une convention. Lemkin était contre cette idée.
Mais il n'existait pas non plus en 1942, ce mot.
Il n'existait pas en 1933, il n'existait pas en 1939, il n'existait pas en 1942, absolument clairement.
Donc, de toute façon, c'est un crime rétroactif, de ce point de vue.
C'est un crime qui a été inventé pour juger les nazis. Et finalement, comme vous savez bien, parce que vous avez lu le livre « Retour à Lemberg », le jugement du Nuremberg ne fait aucune référence au mot « génocide ». C'était un moment désastreux pour Lemkin. Et au lieu de se mettre dans un coin à pleurer pendant 10 ans, il dit « non, je me reprends en 45, en 46, et je vais faire négocier une convention contre le génocide ». Il arrive 3 ans plus tard... Il a fait négocier la convention contre le génocide, prévention du génocide, première convention moderne des droits de l'homme. Alors c'est un moment singulier, c'est un moment révolutionnaire en droit international et dans les relations internationales.
Et oui, parce que comme vous l'expliquez bien, Philippe Sands, le couple crime contre l'humanité, génocide signifie qu'on protège à la fois l'être humain mais aussi le groupe. Et ça n'est pas si évident que cela de comprendre ce qu'est un groupe. Par exemple, on peut se demander si, dans le cas de Bachar el-Assad, on a affaire à des crimes contre l'humanité. Ça, ça paraît évident. Génocide, je vous pose la question.
Mais en fait, les relations entre génocide et crimes contre l'humanité, on peut le comprendre d'une autre façon. C'est une façon de comprendre l'identité. Vous, par exemple, voulez être protégé, mais comment et pourquoi? Est-ce que vous voulez être protégé, vous, Guillaume, parce que vous êtes un individu avec des caractéristiques humaines d'individu, ou est-ce que vous voulez être protégé parce que vous êtes membre d'un groupe ou d'un autre groupe? Et là, ça reprend la question, qui sommes-nous? Qui est-ce que je suis en être humain? Est-ce que je suis un individu ou est-ce que je suis défini simplement par le fait que je suis membre d'une groupe? Et pour toute personne, ça c'est des questions, toute personne comprenne ces questions.
Mais justement, les personnages dont il est question dans votre livre « Retour à Lemberg », du fait de l'histoire, une histoire incroyablement tragique, complexe, la dissolution de l'Empire austro-hongrois dans cette région, la Galicie, qui est devenue à peu près toutes les nationalités imaginables. Ces gens-là n'appartenaient à aucun groupe, ils étaient juifs, cette notion de judaïsme d'ailleurs ayant des acceptions différentes, parce que la plupart n'étaient pas religieux, ils étaient juifs parce qu'on leur rappelait aussi qu'ils étaient juifs. Le fait de forger cette notion-là à ce moment-là, était-ce en quelque sorte une marche vers l'universalité pour ces gens-là?
Une marche vers l'universalité pour ces gens-là, mais aussi le moment où la politique internationale et la politique au niveau national est devenue identitaire. Et là, on vit aujourd'hui, encore une fois, un moment où la politique est devenue la politique de l'identité. Aux États-Unis, on parle par exemple de Trump et les Blancs. Cette question d'identité, protection de la groupe dont je fais partie, ça a beaucoup embêté l'Art Pact, l'auteur du concept crime contre l'humanité. Pourquoi? Pour l'Art Pact, l'idée de Lemkin de protéger les groupes était très problématique. Pour l'Art Pact, il disait, vous allez remplacer la tyrannie de l'État avec la tyrannie des groupes. Et je pense qu'aussi, aujourd'hui, on voit un peu que ça se passe comme ça. En Angleterre, au Royaume-Uni avec le Brexit, aux États-Unis avec Donald Trump, en Hongrie aujourd'hui avec M. Orban qui dit « je veux un État chrétien », en Pologne un peu la même chose, et aussi on voit cette histoire en Turquie, en Istanbul. J'y étais, en Istanbul, j'y étais la semaine dernière. On peut parler en ce moment de la protection des Kurdes en Turquie. Quand on se met à parler de ça, on reçoit vraiment beaucoup de problèmes.
Mais alors attendez, c'est incroyable ce que vous racontez. Ça signifie qu'un gouvernement comme celui d'Orban, par exemple, en Hongrie, pourrait se prévaloir d'une notion comme celle de génocide pour prévenir en quelque sorte son refus de recevoir des réfugiés, ou en tout cas de continuer à mener une politique qui est une politique assez xénophobe. Je pourrais parler aussi de la Pologne avec une résurgence de l'antisémitisme.
En écrivant Retour à Lemberg, c'était une sorte d'immersion dans la période 1914-1939. Et ce qui me frappe vraiment en ce moment, quand je vois ce qui se passe au Royaume-Uni, en Pologne, en Hongrie, aux États-Unis, c'est exactement les mêmes thèmes qui ont eu lieu à Lviv, Lemberg, dans cette période.
C'est très rassurant ce que vous racontez.
C'est pas du tout rassurant, mais la grande question, est-ce qu'on peut quand même apprendre? J'ai écouté là un peu ce que disait M. Macron, le romanesque, l'idée de retrouver l'idée de l'Europe. Parce que dans mon livre aussi, comme vous savez bien, on retrouve par contre certains hommes atroces, mais des personnages aussi remarquables. La femme qui a sauvé la vie de ma mère.
Racontez-nous.
Une chrétienne, Madame Tilney, qui était à Paris, qui rencontre mon grand-père dans une église parisienne, dans le 8e. Mon grand-père lui dit « J'ai une fille qui a un an, qui est à Vienne, est-ce que vous pouvez aller l'aider à venir à Paris ?» Et cette femme risque tout pour aller à Vienne. Elle revient avec une petite fille, ma mère, qui sauve la vie de ma mère. Et après, Madame Tilney reste ici à Paris. Elle est arrêtée par les Allemands. C'est une Anglaise, une chrétienne, une missionnaire. Et elle est emprisonnée pendant 4 ans à Vittel. Et elle reprend ses travaux, même à Vittel, à sauver la vie des gens qui vont être envoyés à Auschwitz et ailleurs. Et là, on découvre, au même moment, à ces atrocités, des hommes comme Hans Frank, l'avocat de Hitler, qui est le quatrième caractère dans mon livre, des gens comme Madame Tilney, tout à fait
remarquables. Hans Frank, qui ensuite a gouverné la Pologne avec une politique d'extermination des Juifs et des Slaves.
Tout à fait. Et qui en 35 invite un professeur français à Berlin pour discuter un peu du futur, de l'avenir du droit international. Le professeur français Henri Donnedieu de Vabre, professeur à la Sorbonne, arrive à Berlin en 35 avec une idée. L'idée de créer un cours pénal international. Il donne une conférence là-dessus et Hans Frank, en réponse à Berlin en 35, dit « ridicule comme idée ». Ça ne va jamais se passer comme ça. 10 ans plus tard, Hans Frank est à Nuremberg et il apparaît au tribunal pénal. Et qui est son juge? C'est Henri Donnedieu de Vabre. Remarquable comme histoire.
Pourquoi les Alliés ont-ils laissé forger les notions de crime contre l'humanité et de génocide? Parce que finalement, ce sont des notions qui sont supérieures à la politique. Et les grandes puissances, qu'elles combattent le nazisme ou pas, ne veulent pas généralement de notions qui soient supérieures à la politique, Philippe Sand.
Il y avait une tension là. Les Américains étaient contre le crime de génocide pendant tout le procès jusqu'au bout, parce qu'ils avaient très peur que le crime de génocide sera utilisé par les Indiens et les Noirs contre eux.
Évidemment.
Les Britanniques étaient contre.
Mais évidemment, mais pourquoi n'a-t-il pas été utilisé contre eux dans ces deux cas, Philippe Sands?
Parce que...
Puisque l'esclavage est évidemment un crime contre l'humanité.
Oui, l'esclavage, le colonialisme, on peut parler de tout ça. Parce que dans le droit international, il y a non seulement l'aspect juridique, il y a aussi la politique et le pouvoir. Et Nuremberg, comme Tokyo, était une politique des vainqueurs. Et ça, il faut faire face. Si on regarde un peu ce qui se passe à La Haye en ce moment, à la Cour pénale internationale, toute personne qui est qui apparaît comme défendeur devant ce cours à La Haye, c'est tous des Africains, c'est tous des Noirs. Les Africains, les Noirs, n'ont pas un monopole sur les crimes internationaux. Alors, encore une fois, on voit que la justice internationale est très liée aux notions de pouvoir.
Et oui, c'est une grande critique qui a été adressée à cette cour. On voit aussi que l'argument, le chef d'inculpation de crimes contre l'humanité, il aurait pu s'appliquer à Dresde, il aurait pu s'appliquer à Hiroshima.
Tout à fait. Tout à fait. Et j'étais la semaine dernière, il y a un mois à Hiroshima. Le livre vient de paraître au Japon, une édition vraiment
Votre livre magnifique. Tour à Lemberg, qu'est-ce qu'il signifie au Japon?
Oui, ça m'a beaucoup étonné. Comment un livre comme ça peut être publié au Japon? Quel intérêt? Bon, l'intérêt, c'était Tokyo. Et l'intérêt, c'était aussi ce qui s'est passé en Chine, ce qui s'est passé au niveau de famille.
Vous voulez dire la politique et la guerre menée par les Japonais en Chine?
Regardez, au Japon, comme en Allemagne, comme en France, comme partout dans le monde, il y a un grand silence. Mon livre, c'est un livre sur le silence. Les gens ne veulent pas parler de ce qu'ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait leurs parents, leurs grands-parents. Alors, au Japon, il y a cet intérêt. J'étais très étonné, j'ai fait 3 ou 4 événements avec le livre. Dans tous les événements, dans toutes les conférences, la première question qui est posée, ils ouvrent le livre et ils vont directement, il y a une photo que j'ai mis, que le fils de Hans Frank m'a donnée et qui a insisté que je le mets dans le livre. C'est le fils, c'est la photo du corps de son père qui vient d'être pendu à Nuremberg. À chaque événement que j'ai fait en Japon, comment est-ce que vous pouvez mettre cette photo dans votre livre? Est-ce que vous avez réfléchi de l'effet de mettre cette photo? Je n'avais pas pensé à la réaction japonaise. J'ai posé la question, pourquoi ça vous étonne? Vous n'avez pas vu les corps des Japonais qui ont été pendus après le procès de Tokyo? Ils ont dit non, on n'a jamais vu ça, on ne voit pas ça, on ne met jamais dans nos journaux ce genre de photo. Et c'était très intéressant. Il y a eu toute une conversation là-dessus, sur ce genre de silence au Japon.
Pourquoi le fils d'Hans Frank a-t-il voulu que vous placiez cette photo dans votre livre, Philippe Sand?
Alors, je suis avocat, je prépare avec une grande diligence mes procès quand je travaille, je fais beaucoup de recherches, je lis. J'ai trouvé un livre par le fils de Hans Frank, Niklas, grand journaliste avec Stern. Je le rencontre en 2011-2012 pour la première fois et on devient très amis. La première fois que je l'ai rencontré, deux choses se sont passées. La première chose qu'il me dit, Niklas Frank, c'est que je suis contre la peine de mort pour tout le monde, sauf pour mon père. Et la deuxième chose qu'il fait, qu'il sort de sa poche, de son, d'une poche une photo de son père mort, pendu. Et il me dit, je regarde ça tous les jours pour être sûr à 100% qu'il est mort, qu'il n'existe plus. Et finalement, il m'a donné accès à plein de documentations, à plein d'autres photos, à même des films qui ont été faits dans le ghetto de Cracow. Il m'a dit, il y a une condition. Je vous donne cette documentation, mais vous devez chaque fois montrer la photo de mon père. Alors, c'est très simple la réponse. Les Japonais étaient un peu choqués par ce que j'ai raconté.
Oui, effectivement, on voit à quel point les méandres de la mémoire en Ukraine aujourd'hui, et là aussi, la mémoire n'est pas évidente. Vous parliez du silence. On voit que l'Europe de l'Est, qui est une région qui a été particulièrement marquée par la Seconde Guerre mondiale, en France, on a du mal à concevoir ce qu'a été la guerre à l'Est. Eh bien, aujourd'hui, tout se passe comme si cette mémoire-là, elle redevenait à nouveau vivante, Philippe Sand.
Je ne sais pas si vous avez vu le film que j'ai fait, qui s'appelle en anglais My Nazi Legacy, héritage nazi, qui est sur Netflix, que vous pouvez voir tout ça. Il y a une scène dans ce film que j'ai tourné avec mon ami David Evans, où on part en Ukraine avec le fils de Frank et le fils de Otto Wächter, et on rencontre des centaines
de... Qui est Otto Wächter?
Otto Wächter était le député de Hans Frank, qui a été condamné aussi, mais qui s'est échappé, qui s'est caché dans la montagne pendant 4 ans en Autriche, et finalement est parti vers l'Argentine. Il n'est jamais arrivé parce qu'il est décédé. J'écris un deuxième livre là-dessus en ce moment. Mais je suis parti avec son fils Horst et le fils de Frank en Ukraine, et on a rencontré des centaines de nazis en habit nazi comme ça, et on a filmé tout ça. C'était un peu délirant, mais c'était aussi c'est une petite groupe, c'est pas la majorité en Ukraine, mais ça joue. Et qu'est-ce qu'ils nous ont dit, ces gens? Nous, pour nous, les nazis, ils sont géniaux parce qu'ils ont attaqué les Russes, ils ont fait partir les Russes. Et pour nous, les Russes sont les pires. Alors, c'est pas la majorité en Ukraine aujourd'hui, mais il y a quand même une minorité assez puissante.
Philippe Sands, Retour à Lemberg, c'est l'ouvrage que vous avez publié chez Albin Michel.